enfants de Syrie, la plupart parlent anglais. Donc pour eux, la barrière de la langue va être plus facile à passer en allant en Angleterre qu'en restant en France. Donc c'est ça aussi qui va jouer. En plus de ça, le travail au noir, il n'est pas aussi surveillé en Angleterre qu'en France. Donc c'est une vraie aide sociale pour les migrants de partir en Angleterre. Et en plus de ça, il n'y a pas de carte d'identité en Angleterre, et donc comparé en France. Donc tous les échanges, l'économie souterraine peut se développer beaucoup plus facilement en Angleterre qu'en France. Donc pour ça, le Nord-Pas-de-Calais joue vraiment un rôle majeur à ce niveau-là. C'est vraiment un point stratégique.
Merci vraiment, Lucie, pour vos explications. On va ajouter quelque chose, certainement avec M. Chika, s'il veut dire quelque chose sur ce lieu emblématique qu'est le Pas-de-Calais. M. Chika, du Canada?
Oui, sur le Nord-Pas-de-Calais, effectivement, puisque c'est tout près du tunnel sous la Manche. Il y en a d'ailleurs qui ont risqué gros, là. Il y a eu des morts. Et maintenant, la Grande-Bretagne est en train de fermer. Il y a eu une réunion entre les ministres de l'Intérieur de la Grande-Bretagne et de la France pour essayer de diminuer absolument. Je pense qu'ils ont réussi à peu près à endiguer la possibilité à ces gens d'aller de l'autre côté. Et comme on l'a dit, là, je sais que l'Angleterre, en ce moment, même si la situation n'y est pas nécessairement meilleure, mais elle est moins réglementée qu'en France. C'est-à-dire que, donc, ça permet aux gens de pouvoir se débrouiller plus rapidement.
Merci, comme... oui, merci, M. Chika. On a un auditeur, c'est pourquoi je me permets de vous couper la parole. On parle de la crise des migrants en Europe, certes, mais ne l'oublions pas, nous sommes dans l'émission L'Amérique et vous.
Ouais.
Une autre question du jour, que doivent faire les États-Unis? On revient à la question, et avant de revenir à vous, les invités, on prend un auditeur, il s'appelle Kadhafi Bangada, c'est ça?
Kadhafi Bangali Djane.
Ah, autant pour moi, monsieur Bangali, toutes nos excuses pour votre nom. Alors,
oui, y a pas de problème.
Que doivent faire les États-Unis selon vous?
Les États-Unis aussi doivent se montrer plus actifs, plus concrets, en recevant plus de réfugiés, parce que ce problème qui s'est posé en Syrie, en Afghanistan, en Irak, nous savons tous que le problème, ça vient des États-Unis. C'est les États-Unis qui ont provoqué tout ça là. Donc, ils doivent se montrer plus actifs, plus humanitaires au niveau des réfugiés que les Européens. Parce que le nombre qu'ils ont pris est trop petit, 1800 personnes, par rapport à tout ce qui arrive actuellement en Europe, vraiment, c'est trop petit. Donc, les États-Unis doivent recevoir plus de réfugiés que tous ces gens-là. Bien sûr, nous savons qu'il n'y a pas de moyens faciles pour arriver aux États-Unis, mais l'Amérique a des moyens pour faire venir ces réfugiés-là là-bas.
Merci, M. Bangali Kadhafi. Le Pentagone a annoncé que les États-Unis autorisaient la prise en charge de 5 000 réfugiés. Et ensuite, le président américain vient de doubler la mise en parlant de 10 000 aujourd'hui. Apparemment, les États-Unis n'ont pas l'intention de rester les bras croisés dans cette crise. On prend M. Chika et on revient à vous. M. Chika?
Qu'on doit d'abord souligner. J'ai l'impression que les gens ne sont pas souvent au courant de ce que font les États-Unis dans les domaines des réfugiés. C'est le premier pays au monde à recevoir des réfugiés. Ça, c'est souvent, on n'est pas très au courant, puisque les États-Unis et le Canada sont d'ailleurs des pays qui ont des politiques migratoires les plus ouvertes à ce niveau-là, puisqu'ils ont, de besoins qu'ils comblent chaque année. Aux États-Unis, il y a au moins à peu près 1 million d'immigrants chaque année qui arrivent. Mais c'est probablement que ce ne sont pas les mêmes immigrants que les gens qui traversent les choses, mais ils ont déjà une politique d'immigration. Et ce qui fait, les États-Unis recrutent aussi dans les camps de réfugiés en Afrique. C'est qu'on ne dit pas souvent, il y a eu en Tanzanie, il y a eu des Burundais, des Congolais, des choses, et puis au Kenya, il y a eu des Somaliens, des choses qui étaient dans les camps, qui sont allés aux États-Unis avec le statut du migrant, avec la carte verte directement. Ça fait partie de la politique américaine. Mais je crois que le problème, c'est ce qui se passe, comme on le dit aujourd'hui, depuis, par exemple, la mort de Kadhafi, on peut le dire, puisqu'il y a eu un désordre quelque part. Et après, effectivement, comme on est aujourd'hui le 11 septembre, il faut se dire que le gouvernement qui a précédé le président Obama, celui de Bush, a réagi agi d'une façon qui a provoqué certaines choses. Le président Obama, on sait qu'à l'époque, il n'était pas d'accord avec l'intervention en Irak.
Merci, M. Kika. On vous reprend dans quelques instants parce qu'on a M. Kouavogui qui nous appelle de Guinée. Il est au standard. M. Kouavogui, bienvenue dans notre émission.
Oui, alors bonsoir à tous les auditeurs de la Voix d'Amérique.
Que doivent faire les États-Unis pour aider leurs alliés européens à endiguer la crise des migrants?
Ok, bon, moi, à mon avis, ce que j'ai à dire là-dessus, bon, je pense bien que les États-Unis et leurs alliés sont responsables directs dans ce conflit syrien qui fait son lot de malheureux de jour en jour. Il est vrai que Bachar al-Assad est en train de massacrer son peuple, mais cherchons une chose, Bachar a été démocratiquement élu dans son pays. Et vouloir soutenir et armer aussi les rebelles contre lui a été, à mon avis, l'élément déclencheur de cette crise qui tarde à prendre fin. Bon, si les États-Unis disent aujourd'hui accueillir 5000 réfugiés syriens sur leur sol, c'est une bonne chose, mais c'est pas la solution. Aider d'abord ces pauvres gens à avoir la paix chez eux. Ces Syriens sont mieux chez eux plus que sur n'importe quelle partie du monde. Bachar est en train de tuer son peuple, ça c'est vrai. Mais j'accuse les États-Unis et leurs complices d'être les vrais responsables dans cette crise-là.
On vous a compris, M. Kouavogui, on vous a compris. On posera la question à nos invités, Lucie Lamonde et M. Chika Kanuru tout à l'heure. On prend une pause et puis on revient et on parlera de tout ça.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Bonsoir à tous encore, avec nous dans l'Amérique et vous, pour parler donc de l'implication des États-Unis dans la crise des migrants qui frappe l'Europe de plein fouet, je l'ai dit, Monsieur Chika Kanuri, président et éditeur du magazine Transatlantique et ici même en studio, au studio 13 de la Voix de l'Amérique, Lucie Lamont, étudiante en relations internationales à Hanover College dans l'Indiana. L'autre question pour répartir donc s'adresse à Lucie Lamont. Lucie Lamont,
oui.
Y a-t-il un intérêt stratégique quelque part à accueillir des réfugiés? Merkel annonce 800 000 pour l'Allemagne. La France prend 24 000. Les États-Unis n'ont pas l'intention de rester donc les bras croisés aussi. 10 000. Le Brésil, le Venezuela se manifestent. Lucie Hamon, qu'est-ce qui se passe?
Alors, moi, je pense qu'il y a un vrai intérêt stratégique pour chaque pays, pour chaque gouvernement de recevoir des réfugiés, en dehors du fait de montrer que, voilà, nous sommes un pays qui accueille. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là de montrer, voilà, nous, on veut accueillir de la nouvelle main-d'œuvre. Aujourd'hui, il y a un problème. La population européenne, elle vieillit. Et les Européens font de moins en moins d'enfants. Donc je pense que recevoir des réfugiés peut essayer de renverser ce phénomène, peut en tout cas aider, peut être un élément déclencheur. Et j'espère que ça va aider. Par contre, je pense qu'il faut aussi rappeler le contexte économique de chaque pays. Un pays en très mauvaise situation économique, je ne suis pas sûre qu'il puisse accueillir autant de réfugiés qu'il voudrait. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Mais je pense que globalement, il y a un vrai intérêt stratégique pour chaque pays au niveau de la main-d'œuvre, d'accueillir des réfugiés.
Merci, mademoiselle Lamont. Monsieur Chika, est-ce que c'est vraiment de l'humanitaire que font les pays occidentaux quand ils accueillent des réfugiés?
La plupart du temps, non. On peut dire qu'il y a de l'humanitaire, mais il y a aussi de l'intérêt absolument important, puisqu'ils prennent d'abord très souvent, comme dans l'immigration, on prend d'abord, pour les pays qui sélectionnent les immigrants, ils prennent d'abord les plus instruits et les plus utiles. Beaucoup de gens disent aujourd'hui que si les États-Unis sont encore la première puissance mondiale, économique, culturelle et militaire, c'est que grâce à l'immigration, il se renouvelle régulièrement. C'est comme, par exemple, il y a quelqu'un qui me disait un jour que vous prenez deux gens très intelligents nés dans 3-4 pays totalement différents, mais qui ont tous une intelligence réelle. Vous les mettez ensemble, c'est clair qu'ils vont créer quelque chose de nouveau. Et c'est ça que font souvent les Américains.
Ok, on va y revenir, monsieur Chika. On a deux auditeurs qui nous attendent. On va prendre d'abord monsieur Kabasele de RDC, de la République démocratique du Congo. Kabasele, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Alors, les États-Unis ont décidé de s'impliquer dans la prise en charge des migrants. Quelle est votre opinion ce soir?
Donc, comme les États-Unis veut offrir l'hospitalité à des migrants syriens, je voulais dire que les États-Unis doivent vraiment faire le tout pour arrêter la pression sur le président Assad, et je crois que la solution sera vraiment très là, et la solution sera décantée. La situation sera décantée. Pour les États-Unis, ce pays était à la base de tout ces troubles qui se passent dans le monde arabe, notamment en Libye. Aujourd'hui, on parle de la Méditerranée qui prend chaque jour les ressortissants africains. Donc, je dirais que l'hospitalité des États-Unis n'est pas vraiment nécessaire.
OK. Nos invités l'ont dit, Monsieur Kabasele. Donc, les États-Unis et les pays occidentaux sont au fond de l'humanité intéressés. On va voir si Monsieur Ouédraogo d'Abidjan dit la même chose. Monsieur Ouédraogo, bonsoir.
Oui, bonsoir à la Voix de l'Amérique, aux auditeurs et à la rédaction.
Bonsoir.
Oui, moi je pense que c'est bien beau cette solidarité internationale, mais le mal demeure profond et il faut attaquer le fondamental même de ce qui pousse les gens à cela. Et je pense que la fin de cette crise migratoire réside bien dans la cessation immédiate de la défiguration égoïste mondiale par les dites grandes puissances, dont les États-Unis. Il faut aider donc, entre autres, à la cessation des hostilités en Syrie, avec le président Assad au centre des intérêts, et le rétablissement d'une autorité politique et sécuritaire convenable aux tendances culturelles, religieuses et idéologiques en Irak, Afghanistan, la reconstruction générale sans condition de la Libye devenue aujourd'hui un véritable champ de ruines intolérable après le passage irresponsable de l'OTAN, sans oublier aussi un plan d'urgence pour les deux Soudans dont la communauté internationale a été le véritable artisan du divorce forcé entre les acteurs politiques qui a conduit au sectionnement précipité du territoire soudanais. C'est donc un devoir moral pour les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Et moi, je dis que, par exemple, le petit garçon Aylan de Syrie qui a été retrouvé noyé aurait pu être un ami au président Obama, Hollande et tout. Mais hélas, il a fallu vraiment cette image à travers le monde pour que les gens s'en rendent compte du drame qui est en train de se produire.
Alors, Monsieur Ouédraogo, il reste très peu de temps, on a seulement 25 minutes. On vous a compris et on va rester sur cette image symbole que vous évoquez. Merci pour votre participation, auditeur fidèle appelant donc d'Abidjan, Monsieur Ouédraogo. Alors, Lucie Lamont,
oui.
Nos auditeurs pointent tous un doigt accusateur sur les États-Unis et ses alliés, les pays occidentaux, oui, dans cette crise des migrants. Qu'est-ce que vous en dites?
Oui, alors voilà, ce qui est revenu le plus, en fait, dans ce qu'ont dit les auditeurs aujourd'hui, c'est que les États-Unis ont un vrai devoir envers la Syrie, envers les réfugiés, un vrai devoir moral, comme vous l'avez dit, monsieur, tout à l'heure. Les États-Unis ont aussi un vrai devoir au niveau du fournissement d'armes qui a eu lieu à l'État islamique. C'est vrai qu'on beaucoup disent que c'est la faute des États-Unis si aujourd'hui l'État islamique est aussi puissant, parce que les terroristes se servent des armes des Américains. Donc les États-Unis ont une vraie responsabilité là-dedans aussi. Ce qui est revenu aussi, c'est que accueillir les réfugiés, c'est bien, c'est généreux, c'est formidable, mais c'est pas une solution définitive. Il faut trouver des solutions définitives. Et ce que vous avez dit, c'est qu'il faut essayer d'instaurer la paix en Syrie et que l'Europe, les États-Unis et tous les pays qui sont en mesure d'avoir une influence mondiale prennent leurs responsabilités pour partir et essayer d'instaurer la paix en Syrie. Ce qui est revenu aussi, c'est que cette crise était une crise attendue, beaucoup de vous l'ont dit, et que l'Europe et les États-Unis ont appliqué une politique aveuglée, elles n'ont pas fait attention à ce qu'il y avait autour d'elles, et donc dans ce sens-là, c'est de leur faute.
Alors Lucie Lamont ferait donc un résumé des propos des auditeurs sur Facebook. Merci Lucie Lamont. On va poser donc la question à notre spécialiste, l'éditeur et président du magazine Transatlantique. Monsieur Chika, les auditeurs demandent finalement, oui, un plan Marshall démocratique et économique pour les Africains et les pays du tiers-monde.
Absolument, je pense qu'ils ont raison sur ce point-là. Puisque si on regarde aujourd'hui, par exemple, pour l'Afrique, on ne peut pas continuer à penser qu'effectivement, il faut des vrais plans. Et pendant, on doit d'abord dire que pour la première fois, en Afrique, le bureau de population des États-Unis a, par exemple, récemment dit que les trois pays qui seront très importants en Afrique pour la population d'ici 2050, ça va être le Nigeria avec 400 000, le Congo-Kinshasa avec 200 millions, et puis évidemment l'Éthiopie avec 170 millions. Donc ces trois pays-là sont inévitables pour les programmes qu'on fait sur l'Afrique. Il faut stabiliser d'abord ces trois pays sur le plan économique et démocratique pour qu'ils puissent aider les autres à aller. Il faut cesser de penser, par exemple, que des pays comme le Rwanda ou le Gabon peuvent faire beaucoup de choses pour le développement de l'Afrique. Il faut aller à des vraies affaires et savoir, par exemple, qu'en Afrique de l'Ouest, il faut stabiliser le Nigeria et la Côte d'Ivoire pour pouvoir arriver à quelque chose. Le Congo, aujourd'hui, les États-Unis s'y mettent, mais il faut comprendre que Kabila est entouré de turiféraires, qui voulaient que Mobutu reste à jamais et qui l'ont trahi après et qui ne veulent pas que les choses changent. Or, le Congo, aujourd'hui, il faut absolument... Il y a une cour constitutionnelle qui est évidemment inféodée au régime qui essaie de changer les règles. C'est pas la cour constitutionnelle du Congo, ce n'est quand même pas la Cour suprême des États-Unis ou du Canada qui donne souvent tort au gouvernement.
Monsieur Chika,
il faut absolument que les États-Unis qui ont commencé à suivre le...
Monsieur Chika, le temps presse, on va prendre un auditeur rapidement, le dernier. On va prendre un auditeur rapidement, le dernier. Et il nous appelle du Tchad. Archiduc Théodore, la parole est à vous.
Oui, bonsoir à tout le monde. Pour moi, la reconnaissance... Voilà, pour moi, l'accueil des migrants de la part des Américains n'est rien d'autre que la reconnaissance des erreurs causées par les Américains. Parce que tout le monde connaît que la crise des migrants est une crise imaginée par l'Occident composé des États-Unis et de l'Europe, qui ont, dès le début, soutenu quelques groupes rebelles à combattre un président élu par le peuple mis en place. Quand on combat Bachar al-Assad ou bien quand on monte un groupe rebelle en fournissant des armes et autres pour tuer des rebelles.
Alors, Archiduc Théodore, vous qui appelez du Tchad, merci en tout cas pour votre intervention. On va terminer rapidement avec nos invités. Archiduc disait la même chose. Il portait son doigt accusateur sur les États-Unis et ses alliés, les pays occidentaux. Miss Amon, vous qui êtes spécialiste des relations internationales, alors les États-Unis s'impliquent, c'est une crise mondiale, que faut-il faire pour la régler et que tout le monde soit content sur la planète?
Alors je pense que, donc, comme vous l'avez dit, les États-Unis, il faut qu'ils jouent leur rôle, il faut qu'ils soient un pays d'immigration, il faut qu'ils montrent ce côté-là, donc vraiment qu'ils reçoivent, qu'ils accueillent des immigrants. Je pense que ça, c'est vraiment important. Je pense aussi que la France a une peur au niveau de son identité, elle a peur de perdre son identité, et ça, je pense que je défends pas cette idée, je soutiens pas cette idée, mais je pense que c'est important aussi de le voir.
Merci Lucilla. Bon, on passe la parole à Monsieur Tika Kanuri du magazine Transatlantique. Conclusion.
Oui, ce que moi je souhaite, je pense qu'on est à peu près sur la bonne voie, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire, par exemple, on est content de voir que le président Obama a réussi presque à faire passer le traité avec l'Iran, donc celui qu'on vient de faire, puisque l'Iran, c'est un pays qu'on ne peut pas ignorer dans cette région-là. Et qu'avec l'Iran, probablement un peu de travailler avec l'Iran, la Russie, et en Afrique, comme on l'a dit, là, travailler avec les pays qui vont être nécessairement importants, comme le Nigeria, le Congo, puis l'Éthiopie, et d'autres puissances régionales comme la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Kenya. Il faut arriver à faire ça, puisque sans la paix et sans le développement...
Voilà, M. Chika, nous avons le générique fin de cette émission, l'Amérique vous aujourd'hui. Merci à M. Chika du magazine Transatlantique. Merci à Lucie Amon de l'Université de Hanover. Et Jean-Roger Bion à ce micro. Merci à Lionel Gaïma pour la réalisation. Et M. Holmes pour la réalisation technique. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.